bonjour à tous. On va commencer avec le basket. Ce matin, Cholet recevait Blois hier soir et s'est incliné en s'écroulant littéralement dans le dernier quart-temps. La Séguinière, terre de basket. L'équipe masculine brille en N3, poussée par un public incroyable. En football, les Chamois jouent seulement demain à Sochaux en clôture de la 30e journée de National. Martigues accroché par Cholet. Les footballeurs niortais ont l'occasion de reprendre le large avant de recevoir leurs rivaux vendredi. 11 clubs et comités sportifs de Sévrien viennent de s'engager dans une démarche pour limiter la consommation d'alcool, notamment lors des traditionnels 3e mi-temps. On en parle dans cette émission. C'est la discipline qui cartonne en ce moment. Le gravel à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT fait de plus en plus d'adeptes. 600 d'entre eux se sont donné rendez-vous à Thouars ce week-end. Enfin, le raid Andivalide a lieu le week-end prochain à Pescalis. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette 9e édition avec Marion Baudot.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le basket, comme promis, pour ouvrir cette édition et la Betclic Elite. Cholet s'est incliné hier après-midi contre Blois dans sa salle, 71-80. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur Colline, des Choletais qui se sont écroulés dans le 4e carton, concédant un 29-7. Laurent Villa regrettait globalement un manque de combativité.
Et ce qui est important, c'est ce qu'on fait sur le terrain et comment se retrouver à jouer une qualité de basket et à se battre par rapport à un adversaire qui est super motivé, qui est engagé, qui est dur et contre lequel il faut s'imposer. Et là, aujourd'hui, on s'est laissé pousser, prendre des ballons dans les mains. Enfin, c'est ça que je regrette, en fait. C'est ce manque de combativité, de surmotivation par rapport à l'adversaire. On sait qu'ils vont venir avec des dents qui vont rayer le parquet et défendre leur peau jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé parce que c'est leur dernier run, en fait, il est à la fin du match.
On se sent comment par rapport à cette situation? Vous êtes complètement démunis à un moment donné? Enfin,
on voit bien qu'on trouve pas de solution, quoi. Moi, je dois prendre un temps mort par rapport à remettre de l'ordre et la sérénité pour monter la balle face à la pression. Bon, là, on a plus perdu le ballon. Mais après, même pour jouer de demi-terrain, c'était sclérosé, quoi. Tous les choix, c'était dans les mains de l'adversaire. Ça, c'est... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit un sentiment de panique générale qui fait qu'on n'arrive pas à redresser alors qu'avant d'être à moins 10, on est à 2 points, 3 points, hein, sur quelques possessions en plus d'affilée. Après, il ne faut pas laisser l'adversaire qui est surmotivé prendre la confiance comme ça. Surtout qu'on avait le match en main à un moment donné avec, il y a eu une fois 16 points, mais il y a eu aussi tout un écart de 10 points régulièrement, 11 ou 12, quoi.
Cholet n'y arrive pas en ce moment. Enzo Goudoucina, le meneur, affichait la mine des mauvais jours à la sortie du vestiaire au micro de Vincent Nori.
Ouais, c'est difficile en ce moment. On perd des matchs qui sont contre des équipes relégables ou presque. Donc c'est difficile. En plus, on avait l'avantage et on a eu un passage horrible avec plein de fautes offensives et beaucoup de balles perdues. Donc ça nous a fait trop de mal, quoi. Ils sont revenus et après, c'était compliqué de relever la tête.
Juste avant la mi-temps, vous passez de plus 16 à plus 8. Est-ce que ça vous alerte déjà ou...
Ouais, on sait qu'ils ont un bon esprit de combativité. Donc on les a joués plusieurs fois, cette équipe, en pré-saison et en match amical, et là c'était encore la quatrième fois au total, donc on sait de quoi ils sont capables, et malheureusement ce soir on a eu un gros manque de je sais pas comment expliquer, mais on a eu un trou en tout cas, et on a eu plusieurs trous en fait qui nous font trop mal, et je sais pas combien on prend, je sais pas combien, si vous savez combien
22-0.
Ouais, voilà, 22-0, c'est énorme, et compliqué.
Et Cholet est désormais 8e au classement à 4 journées de la fin, toujours dans les clous pour les playoffs, mais ça se complique véritablement. Le retour de Gérald Ayahi n'a pas porté ses fruits. Il revenait de blessure après sa fracture de la main. Sous les yeux de son père, Franck, qui suit le parcours de ses enfants, Valériane joue à Prague et en équipe de France. Joël joue à Nanterre et Gérald donc à Cholet. Entretien donc avec Franck Ayahi.
C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête des joueurs parce que c'est dur. C'est dur. On a envie de les comprendre parce que je crois qu'ils n'ont pas vu venir. Ah ouais. Mais bon, Blois a été très très fort, a été très remuant, donc forcément Et je le maintiens, hein, Blois.
Donc, ouais, une équipe qui n'a jamais lâché, qui ne s'est jamais désunie.
C'est ça, c'est ça. Donc bon, forcément, c'est un coup derrière la tête, mais bon, c'est le sport.
Il était important pour vous de venir voir Gérald pour son retour ?
Absolument, absolument. Parce que il faisait de la préparation physique, et il se servait pas beaucoup de ça, mais mentalement, il se préparait à ce retour-là. Et bon, le petit conseil que j'ai pu lui donner, c'est de ne pas être trop excité, parce que l'envie de vite revenir, forcément, on l'a vu d'ailleurs, hein, dans les fautes, dans l'agressivité, et ça, il est sorti de lui-même. Donc bon, mais ça l'a pénalisé un peu, mais bon, c'est un retour, hein, donc on verra bien pour la suite.
Bon, comment vous, papa de cette fratrie à Yaï, comment vous vivez les événements, Gérald ici, Joël à Nanterre, Valériane, équipe de France à l'étranger, ça se passe comment?
Mais alors, c'est vrai que avant les matchs, on s'envoie toujours des petits messages, hein, sur un groupe familial, hein, et on suit ce qu'on peut suivre à la télé ou sur les stats, hein, et puis à la fin, on fait un petit débrief avec chaque enfant et ou sur le réseau familial, et voilà. Mais en tout cas, on communique beaucoup et on les soutient beaucoup.
Et le papa, avec tous ses enfants, il a poussé vers le basket ou est-ce que ça s'est fait naturellement pour eux?
Ah non, ça s'est fait naturellement, même si quelque part, bon, j'espérais, mais je pense qu'ils ont plus suivi la sœur aînée, Valériane, qui a très vite intégré les équipes de France jeunes. Et donc, l'occupation, les matchs et internationaux et tout ça, bon, ça a dû faire tête dans leur tête. Hein, et je pense qu'il y a eu une petite motivation de ce côté-là.
Et vous, papa, vous avez dit, allez-y, foncez.
On les a accompagnés. On les a accompagnés. Et puis, on croisait les doigts pour que ça prenne. Hein. Voilà.
Belle carrière pour Valériane, évidemment, mais pour Gérald, pour Joël.
On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Et c'est beaucoup de peur pour les parents, beaucoup d'inquiétude parfois. Et
par rapport aux blessures, par rapport à quoi?
Par rapport à l'environnement du sport de haut niveau. Et c'est-à-dire les relations entre joueurs, les relations entre l'encadrement et les enfants et les joueurs. Et c'est pas toujours simple, parce que bon, c'est pas toujours la même façon de voir les choses. Et ils prennent des coups par leur homologue, par leur collègue de jeu. Et puis bon, après, il faut perdurer, il faut insister. Et c'est comme la répétition des gestes à l'entraînement, quoi.
Intéressant ce témoignage de Franck Ayayi, père de joueurs de haut niveau de basket, hein, joueur et joueuse Valériane, Joël et Gérald. Il était au micro de Vincent Nori hier soir. On poursuit avec le basket en Pro B. Nantes a été battue par Antibes 88-103. Et puis La Rochelle s'est imposée contre Vichy Clermont 87-74. Aujourd'hui, Angers joue Boulazac en Ligue féminine. Le quart de finale aller des playoffs et la défaite d'Angers vendredi face à Villeneuve-d'Ascq 73-82. En National 2 masculine, Niort a battu Garonne hier 81-72 à la clameur. L'AS Niort bat le leader et valide ainsi son maintien. Bonjour Laurent Hay.
Bonjour.
Coach de l'AS Niort, alors vous vous êtes vraiment offert une soirée de gala, hein, hier soir à la clameur.
Ouais, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans les vestiaires en briefing d'avant match. Ça devait être notre soirée, notre match qui, voilà, qui soit un peu la soirée marquante de notre saison. On savait que gagner à la Cameur contre leader, ça c'était déjà une chose, une performance, mais c'était surtout assurer définitivement le maintien et la suite du club en National 2. Et les joueurs ont su le faire, et de belle manière, donc devant une salle encore bien garnie. Donc ouais, c'est je pense que ça restera pour nous quand même la soirée événementielle de notre saison.
Et un leader qui a encore à jouer, hein, je veux dire que tout n'est, ouais, rien n'est acquis, oui. Hein, pour Garonne. Hein.
Non, parce que l'intérêt de aujourd'hui, c'est de Garonne et certainement Montgaillard qui vont faire les playoffs d'accession en L1. Eux, leur objectif, c'est de finir premier pour croiser avec le deuxième d'une autre poule et éventuellement avoir la belle chez eux. Ce qui est aussi financièrement intéressant pour eux parce que c'est une deuxième recette. Donc non, ils venaient là pour avoir cette première place. Ils l'ont pas et ils vont la jouer. Ils se rencontrent la dernière journée à Garonne pour cette première place. Donc s'ils avaient pu l'assurer hier, c'était mieux pour eux. Je pense qu'ils ont été surpris par je pense la qualité de notre match, hein, parce qu'on a été bon, on a été autoritaire. C'est vrai que là, la clameur nous a aidé. Autant en début de saison contre Bordeaux, j'ai trouvé mon équipe un peu timorée dans cette salle-là, alors que d'habitude elle nous transcende. Et hier soir, on a eu un tout autre visage. Et puis, je crois que les joueurs étaient déterminés à conclure cette saison, qui est une saison longue, hein, parce que le championnat a été long et dense pour nous. Et le faire, ils voulaient vraiment le finir à domicile et en plus à la clameur. Donc non, c'était une soirée réussie et grand merci à l'équipe qui s'est montrée très très combattante et qui a laissé une belle image pour le club. Et ce maintien, c'est une récompense pour les dirigeants, pour les bénévoles, pour les partenaires, mais c'est avant tout une belle récompense pour les joueurs.
Alors est-ce qu'on se projette déjà sur la saison prochaine ou pas encore, Laurent?
Non, pas encore. Tant que c'était pas acquis, je voulais aucune. Les agents m'appelaient, je leur disais non, c'est trop tôt. Mais avec mes dirigeants, on n'a pas parlé une seconde parce que peut-être aussi par superstition. Là, on va d'abord prendre quelques jours de repos et puis j'ai rencontré mes dirigeants pour faire un petit peu un bilan de tout ça. Évidemment qu'il y a l'aspect économique qui interviendra en jeu. Le recrutement se fait d'abord par rapport à un budget, donc je vais voir ça calmement avec mes dirigeants et puis voir comment on travaille. Moi, il me reste 2 ans de contrat. J'aimerais bien finir en beauté avec Niort et surtout en beauté, c'est-à-dire au moins assurer des maintiens plus sereinement. Parce que là on a dû attendre l'avant-dernière journée de championnat pour assurer ce maintien-là, dans une poule compliquée, attention, où la concurrence était forte, et elle le sera tout autant l'an prochain. Et puis, c'est vrai qu'avant de partir de Niort, j'aimerais bien tutoyer les premières places. Voilà, parce que maintenant, ça fait 8 ans qu'on est au niveau national à Niort, ça fait 6 ans au national 2. J'aimerais bien qu'on franchisse un cap et qu'on devienne vraiment une grosse armada à ce niveau-là. Et parce que on a toujours envie d'évoluer, de progresser. Et puis je reste convaincu qu'à Niort, il y a un potentiel pour aller plus loin. Mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Hein. Le club n'est pas prêt à ça. Mais en tous les cas, il faut que tout le monde aille dans le même sens et qu'on veuille avancer. Mais le budget est même à ce niveau-là est déterminant.
Merci Laurent. Laurent Hay, coach de l'AS Niort, vainqueur beaucoup hier de Garonne, hein, 81 oui. à 72, le leader de ce championnat de N2. Et l'AS Niort valide ainsi son maintien. À bientôt et bon dimanche.
Merci.
La suite en basket, toujours en National 3 féminine. Le quart de finale aller pour Choret contre Garonne également cet après-midi pour les Choraisiennes qui ont obtenu leur montée en National 2. Et c'est bien là l'essentiel. La National 3 masculine et la victoire de la Séguinière hier soir contre la Roche-sur-Yon, 95 à 73. La Seigue est troisième à 2 points de Brissac et 1 point de Touraine. Retour sur cette soirée avec Julien Hérault, le coach de la Séguinière, au micro de Vincent Nori hier soir.
Roger le coach. Julien, il reste encore un match. On parle de cette rencontre face à la Roche-sur-Yon. Bien mené.
Ouais, compliqué parce que c'est une équipe qui, sur le papier, vraiment, je la trouve assez forte individuellement, quoi. Après, ils ont changé de coach en cours de saison. On sent pas une grosse cohésion de leur côté. Mais ça reste une équipe qui est pas simple à jouer parce que y a de la qualité en face. Athlétiquement, c'est assez dense. Bon, ils sont passés à côté de leur saison, mais je pense que sur un autre exercice, ils pourraient largement être au milieu de tableau. Donc voilà, on démarre à 0-0, on sait qu'on est supérieur, mais après, le fait de le dire, ça suffit pas. Faut mettre les actes, on est à +10 à la mi-temps. Mais on est encore sur un faux rythme où on les laisse un petit peu. On les laisse à portée de fusil, quoi. Donc il fallait faire l'effort supplémentaire, densifier un petit peu défensivement, être un peu plus dur. C'est ce qu'on a fait en début de quatrième quart-temps.
La SEC qui termine sa saison à domicile, tout du moins, il y a une ambiance extraordinaire. On vient à la SEC pour ça aussi.
Ah, on a refusé deux ou trois fois de suite, je crois, même peut-être quatre, je sais plus, en janvier, février, là. Il y a 200-300 personnes qui sont restées dehors. Donc à 18h45, 19h, fermeture des portes et 200 dehors, certains qui sont licenciés au club, qu'on n'a pas pu faire rentrer et tout. Donc tant mieux parce qu'il y a de l'engouement. Après, les dirigeants, ils ont bien bossé là depuis sur l'organisation, la gestion du remplissage de la salle. Donc là, chapeau à eux parce que c'était pas simple. Et puis je leur dis, moi souvent je dis, je savais en venant la SEC que les valeurs humaines du club, elles allaient me convenir dans le partage et tout. J'ai dit, le basket, les mecs répondent sur le terrain, sur ce que je propose et tout, c'est génial. Et en plus, le kiff, c'est que on joue dans une salle. Quel joueur n'aimerait pas jouer dans une salle comme ça? Je connais pas toutes les ambiances N3 en France. Et pour un, depuis 20 ans, 15-20 ans, je coach en championnat de France, féminin, masculin, j'ai jamais connu ça de ma vie.
La Séguinière, terre de basket, ça donne envie d'y aller. Les finales départementales de basket 3-3 ont lieu ce week-end. Ça se passe au Palais des Congrès de Parthenay encore aujourd'hui. Donc dimanche, si cela vous intéresse, c'est la fin de cette page basket. Allez, la page foot donc, et la Ligue 1. Hier, Nantes a sombré à domicile contre Rennes, 3-0, et Lens a battu Clermont 1-0. À l'affiche aujourd'hui, Le Havre-Metz, Lille, Strasbourg, Reims, Montpellier, Brest, Monaco, Toulouse, Marseille et Paris-Lyon. En Ligue 2, Saint-Etienne a battu Bordeaux 2-1, Pau a battu Laval 3-0, Angers a battu 3-2-1, Amiens a été battu par Dunkerque 1-0, Bastia s'impose à Guingamp 1-0, le nul entre Concarneau et Quevilly 0-0, Grenoble vainqueur à Annecy 1-0, le Paris FC a battu Valenciennes 2-1, et puis Ajaccio a battu Caen 2-1. En national, en allant faire un nul à Martigues 2-2 vendredi soir, les Choletais ont permis aux Red Stars de valider leur montée en Ligue 2 malgré une première défaite à Bauer face à Dijon 2-0. Les Chamois qui jouent demain à Sochaux sont assurés, même en cas de défaite, de garder au moins 2 points d'avance sur Martigues avant le choc programmé vendredi prochain sur la pelouse du stade René Gaillard. À 5 journées de la fin, il faut gérer la pression et Philippe Hinsberger s'y emploie avec une longue semaine de préparation avant ce match à Sochaux.
On parle pas de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer, on parle de ce qu'on est en train de faire à chaque jour à l'entraînement. Mardi, on a fait une petite sortie à vélo parce que la semaine est très très longue, donc c'était plutôt très sympa dans le Marais, pour ceux qui ne connaissaient pas le Marais Poitevin. On a pu découvrir un petit peu. Et puis le reste, on reste concentré sur notre préparation de séance, notre rendu de séance, ce qu'on a envie de trouver. Et puis nous, de notre côté, le staff, on travaille sur l'adversaire, sur notre équipe, mettre la meilleure équipe possible, mettre les gens en confiance, et puis voilà.
Tu parlais de rigueur aussi pendant la séance, c'est un peu le maître mot sur cette fin de saison, vous avez votre destin en main aussi?
Mais un peu comme tout le monde, même très très haut niveau, de temps en temps, t'as des pertes de balles qui sont pas tolérables, parce que on fait gestes superflus alors que t'as peut-être un joueur dans ton langue de jeu, on veut faire un truc trop compliqué dans une mauvaise zone, quand je parle de rigueur c'est ça.
Philippe Hinsberger avant le match à Sochaux, donc demain soir ce sera à 21h. En National 2, Bergerac a battu les Arbis 1-0, Angers Trélissac de partout, Saumur s'impose à Bourges 3-2, et puis La Roche-sur-Yon bat Blois de Buzyn. En National 3, Choret a fait un nul à Fontenay, un bon nul 0-0, Aignore a battu Sablé 3-0, La Châtaigneraie s'impose à Château-Gontier 5-1. Les huitièmes de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine ce week-end, et ça passe pour le FC Otiz, vainqueur sur le terrain des Portugais de Limoges 4-2, le derby de la Gâtine a tourné à l'avantage de Parthenay, vainqueur du Talus 1-0. En Régional 2, à suivre cet après-midi, Avenir 79 contre la réserve de Thouars dans la poule C de Régional 2, ça jouait hier entre Niort-Saint-Florent et Saint-Niguerre, un partout. Et puis Échiré-Saint-Gelais a fait un nul à Saint-Émilion, un partout. Dans la poule A de Régional 3, Auzon-Aubin-Rortais, cet après-midi, victoire impérative pour Aubin-Rortais, sous peine de voir s'envoler définitivement les Châtel-Rodais. En départemental 1, Effre-Fort-Praille contre Gatifoot, le Talus contre Bressuire, Pays de Loing, Saint-Cerbouillet, Saint-Aubin-le-Cloud, Pays Mexantais Étoire Sud-Gâtine dans la poule nord de 2e division. Portugais de Cerizay contre Beaulieu-Breuil. FC Comores contre Coulonges-Touarçais. FC 3C contre Terve. Noyers-Aubiers contre Cerizay. Pays Argentonais face à Saint-Sauveur. Et Pays Tenzéen contre Montcoutant. Tous les matchs ont lieu cet après-midi. Dans la poule sud de 2e division, Pays Néo-Crêchois s'envole vers la 1ère division avec une nouvelle victoire contre Beauvoir. 4-0, le nul entre Val-de-Boutonne et l'UFC Boutonnais. Un partout cet après-midi dans cette poule sud de D2. Brulin-Partenay, Échiré-Saint-Gelais contre Choret, Mosée-sur-le-Mignon face à Frontenesse à Saint-Forien et Venise-Verte contre FC Otiz. Voilà pour le football. En rugby, sachez que La Rochelle en top 14 s'est inclinée hier sur la pelouse de Castres sur le score de 25-24. Et on s'intéresse ce matin à cette initiative du milieu sportif dans son aspect sociétal. 11 clubs et comités sportifs de Sévrien viennent de s'engager dans une démarche pour limiter la consommation d'alcool, notamment lors des troisièmes mi-temps. Ce label 100% pur sport a aussi pour ambition de lutter contre les addictions. Les signataires se sont vus remettre tout récemment ce label par les services de la préfecture. Patrick Maché est le président du comité olympique et sportif des Deux-Sèvres. Il est au micro de D4B.
Notre objectif principal, premier, c'est de faire de la prévention avec tous les jeunes, quelle que soit la discipline, que ce soit des sports co ou pas. Quand on rentre au vestiaire, les enfants ils doivent se désaltérer, mais l'éducateur, il ne va pas changer sa bouteille de bière. Ça va être le début, voilà. Et après sur tout ce qui est consommation au niveau des buvettes, c'est sûr que la buvette, c'est un... pour les petits clubs de football, par exemple, hein, c'est important, la buvette. Mais dans ces cas-là, si on met des boissons alcoolisées, elles doivent être vendues plus cher, déjà, que des boissons non alcoolisées. Alors souvent, c'est le contraire. C'est pas logique, ça. Voilà. Donc on va commencer à y aller tout doucement. C'est pas interdire l'alcool. L'alcool fait partie, je dirais, de la vie, de la société, etc. Mais prendre conscience qu'il y a un risque pour les enfants, consommer très tôt. Ils ne pourront plus s'en séparer de l'alcool. Hein. Puis il y a aussi la troisième mi-temps, puis tous les risques routiers, quelque part.
Les comités qui se sont engagés dans cette démarche, il y a le club de foot de Niort-Saint-Florent. Écoutez le président de ce club, Christian Leyondre.
Le club a déjà, depuis plusieurs années, engagé des démarches et le club voulait officialiser, de par ce label, toutes les actions qui mènent à ce que le foot soit vraiment festif et que les troisièmes mi-temps puissent se passer le mieux possible. Moi, quand je lis la presse et que je vois qu'un jeune est mort suite à un accident de la route en sortant du foot ou en sortant du rugby, ça nous interpelle. Donc nous ce qu'on tend, c'est qu'il y ait du zéro. Voilà, quand nos jeunes 18 ans se réunissent pour faire une petite soirée entre eux suite à un match, qu'on leur laisse le club à house, la consigne, c'est que personne ne quitte le stade. Voilà, on passe la nuit, s'il le faut, au stade. On a engagé une sensibilisation de nos jeunes, notamment lors de nos stages que l'on fait sur Saint-Lary, où on emmène cette année encore 90 enfants faire de la pratique de football et également accéder à la montagne. Donc c'est au cours de ces moments qu'on se rencontre et on sensibilise les enfants aussi bien sur les règles de l'arbitrage qu'aussi bien sur les différentes addictions possibles, quoi.
Le club de foot de Niort-Saint-Florent engagé donc dans cette démarche, comme une dizaine d'autres clubs, d'autres devraient s'engager au cours des prochains mois pour ce label 100% pur sport. Quelques résultats en handball, en D2 féminine. Sachez que Celles-sur-Belle joue à Toulouse cet après-midi. Hier, la réserve celloise en National 1 a battu Rochechouart 27-21. En National 2 féminine, Montcoutant s'est incliné à Bègles 28-16. Et puis Pouzeau-Auge en National 1 masculine s'est incliné à Rennes sur le score de 33-28.
Toir accueille ce week-end un grand rendez-vous autour du gravel.
Le gravel, c'est la discipline qui monte en flèche à cheval entre le cyclisme sur route et le VTT pour la 2e édition des Gravieros organisée par le VC Toircet et l'association Moumouze Sport. 600 adeptes étaient attendus ce week-end sur Toir avec un championnat régional hier, samedi, puis les brevets aujourd'hui, dimanche. Brevet, c'est le terme employé pour désigner les randonnées entre guillemets, de 60 à 200 km. Jérôme Bourri a tracé les parcours et nous emmène dans cet univers gravel.
Pour le dimanche, toutes les traces, en fait, on peut pas baliser. Le dimanche, on peut pas baliser, on peut pas faire des croix partout, on peut pas, c'est impossible, ça serait trop de travail. Donc, en fait, le gravel, c'est pas comme le VTT. Le VTT, on est obligé de marquer sur le sol, on met des flèches, voilà. Mais en gravel, en fait, on trace. Moi, je trace le chemin et en fait, on donne une trace GPS à chaque participant. C'est un fichier GPX. Il enregistre soit dans le téléphone, soit souvent les trois quarts du temps, c'est sur Garmin, c'est sur GPS. Et ils sont autonomes. Et en fait, on met des ravitaillements sur chaque épreuve, sur chaque brevet, on va dire. Donc sur le 60, il y a un ravitaillement. Sur le 100, il va y avoir deux ravitaillements. Et sur le 150 et le 200, il va y avoir trois ravitaillements.
Alors, est-ce qu'on a beaucoup de participants sur une distance comme le 200?
Alors sur le 200, on est à peu près 130, c'est beaucoup hein, parce que 200 ça commence à être de l'ultra. Pour moi, au bout de plus de 10 heures de vélo, plus de 10 heures de selle, pour moi c'est l'ultra. Ouais, sur le 200, il y aura 3 ravitaux avec 130 personnes. Le 150, c'est bien réparti en fait. Hein. C'est sur le 100 où il y en a plus, je crois qu'on est à plus de 160, je crois. Donc sur l'épreuve totale, pour le dimanche, 450 à peu près. C'est énorme. C'est, ouais, l'année dernière, on était en 300 avec les VTTistes. Là, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Ça vient de partout.
Le gravel a vraiment explosé ces dernières années, ces derniers mois. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette explosion?
Pour moi, vous voyez, moi, j'ai commencé le gravel en 2017. 2017, je faisais déjà mes petites randonnées du coin avec un gravel. Je faisais mes sorties VTT parce qu'en fait, on n'est pas une région où il y a beaucoup de dénivelé, où ça casse beaucoup. Donc, toutes les randonnées du coin, on peut les faire en gravel. Le gravel, en fait, c'est beaucoup de gens se sont mis au gravel en quittant la route. La route est dangereuse. Beaucoup de coursiers se sont mis aussi au gravel. Les chemins sont plus sécurisés que les routes. Pour moi, il y a ça et puis aussi le fait qu'en fait avec un gravel on passe partout. On peut prendre du chemin, on peut prendre de la route, on peut prendre un peu de technique. Ça passe partout. On peut faire tout avec un gravel.
Et c'est moins technique que le VTT. Vous le disiez, le but c'est de pas porter le vélo.
Ah oui. Ah oui, non, pas de technique, faut pas que ça casse. Si vous voulez, les gravels n'ont pas de suspension comme un VTT, donc il n'y a pas d'amortissement. Donc c'est le pneumatique qui fait l'amorti. Donc non, c'est vraiment, faut que ça soit roulant, faut que ça soit une découverte aussi. Dimanche, ils vont découvrir des choses. Je les ai fait passer par des ponts où ils vont découvrir des choses. Il y en a qui vont le faire en mode je vais prendre des photos et puis voilà quoi. Donc je voulais que ça soit une belle trace roulante et avec des belles vues et des beaux spots quoi en fait.
Et sachez que c'est Loïc Herbreteau qui a remporté hier le championnat régional à Thouars, sans véritable surprise, puisque le Charentais est champion d'Europe master dans cette discipline gravel. Jérôme Bourri, que vous venez d'entendre, vient de se distinguer, lui, sur le vélo, avec Fabrice Roy, sur le Gravelman des Flandres, 24 heures sur la selle, à l'assaut des mythiques monts flandriens. Écoutez-le à propos de cette expérience.
Les gravelman sont engagés. En fait, c'est du gravel engagé. Très dur, des traces très dures, exigeantes. Là, avec Fabrice Roy de chez Vélocité à Bressuire, nous avons participé à la Gravelman Flandre. Donc c'est un format de 350 km en autonomie. Donc là, il n'y a pas de ravito, c'est vraiment de l'autonomie. Il vous file la trace et en fait, le premier arrivé a gagné quoi. En sachant que c'est pas reconnu comme une course, hein. C'est plutôt un brevet, mais il y a un classement. Bon, voilà. On a un tracker, on est suivi. La famille, les amis, les copains peuvent nous suivre sur une application. Et en fait, là, c'est vraiment l'autonomie complète. Et c'était un truc sympa. Bon, la journée était belle, avec un beau soleil, mais il y avait beaucoup plus comme dans le nord. Et les traces très boueuses, très grasses et ouais, très compliquées. Avec des belles montées, des bergs, hein, comme on appelle dans le Nord, hein, les Paterberg, les Koppenberg, et puis le mur de Huy, par exemple. On a monté 10 cols comme ça, 10 cols, 10 monts, on va dire. Ouais, une belle aventure. Et puis, donc, nous sommes partis à 6h le matin et arrivés le lendemain au vélodrome de Roubaix à 6h. Donc, on a mis une journée pour faire non-stop, sans dormir, cette trace de Gravelman.
Alors, voilà. Et vous vous êtes montré le plus rapide, hein.
En fait, le gravel, c'est pas la mentalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait, on vous donne un tracker. Il y a un classement, c'est en interne, mais ça reste un brevet parce que ça serait trop compliqué à organiser une course. Donc en fait, sur on va dire 400 participants, il y en a peut-être 100 qui veulent venir pour voir le paysage, 50 pour découvrir autre chose. Mais bon, la majeure partie, c'est pour aller chercher quelque chose, quoi, pour se dépasser et puis essayer de faire un top 10, quoi. Donc voilà. Donc là, nous, on a eu cette chance de finir, ouais, tout à fait premier en duo avec Fabrice Roy, là, de chez Vélocité. Voilà. Qu'on roule beaucoup ensemble en duo.
Jérôme Bourri qui multiplie les défis de la sorte ce week-end. C'est un autre challenge, celui d'organisateur pour la deuxième édition des Graviers Roses sur le Toircet. Les amateurs de vélo auront un œil, voire deux aujourd'hui sur un monument, Liège-Bastogne-Liège. C'est déjà lancé. Il faut dire qu'il y a 254 kilomètres au compteur pour les engager, avec notamment un duel attendu entre Van Der Poel et Pogacar. Le 9e raid Handivalide des Deux-Sèvres, organisé par le comité départemental Handisport, aura lieu le week-end prochain à Pescalis, et c'est la deuxième fois de suite que le site de pêche accueille ce raid. 24 équipes vont s'y affronter sur des épreuves diverses et variées. Entretien avec Marion Baudouin, elle est chargée de développement dans le nord du département pour le comité Handisport.
Là, on a vraiment un espace, un terrain de jeu qui est super pour tous les participants du raid. On peut pratiquer des sports aquatiques. On est vraiment sur du sport de pleine nature et le cadre est idéal, c'est sûr.
Rappelez-nous le principe un petit peu du raid Handivalide.
Alors, le raid Handivalide donc se déroule sur 2 jours, le samedi et le dimanche, donc 27 et 28 avril prochain. Et l'idée sur ces 2 jours-là, c'est de faire s'affronter 24 équipes sur plein d'activités de pleine nature différentes pendant ces 2 jours-là. Donc on va de la course d'orientation cycliste au canicross, à la voile. Cette année, on a essayé de rajouter différents ateliers en fonction de l'année dernière pour toujours nous renouveler et essayer d'avoir un intérêt encore différent par rapport à l'édition précédente.
Le principe, hein, c'est que l'on associe un valide et un handicapé. Les équipes, elles sont constituées comment exactement ?
Voilà, exactement. Donc ce sont des équipes de 2 ou 3 personnes avec obligatoirement une personne en situation de handicap moteur ou sensoriel. Donc avec une ou deux personnes valides pour l'accompagner sur les différentes épreuves. Et donc il est possible de s'inscrire pour les 2 jours, donc le samedi et le dimanche, ou alors de s'inscrire uniquement sur la partie dimanche qui est un petit peu plus, comment dire, un peu plus ouverte à tous les handicaps. Le samedi, on est plus sur une partie plus sportive et plus complète. Cette année, c'est la première édition où on affiche complet et on est très heureux de ça. Donc à nous derrière d'assurer et de proposer aux participants une édition dont ils se souviendront.
Sur les activités, on peut détailler un peu peut-être ce qui attend les participants ?
Oui, le samedi, on commence samedi après-midi avec une course d'orientation cycliste. Suite à ça, on va demander aux équipes d'enchaîner sur le site de Pescalis avec un biathlon. Donc ce sera du tir sportif laser avec de la course. Et ensuite, le dimanche, donc là, on a 12 activités différentes. Donc ça va, comme je vous le disais tout à l'heure, du canoë et kayak à l'ultimate, en passant par le canicross. On fait aussi du curl où cette année on a aussi inclus la pêche dans nos activités pour solliciter aussi le personnel de Pescalis. Donc on essaie vraiment de respecter le terrain qu'on a et d'inclure plein d'activités différentes pour convenir au plus grand nombre.
On a vraiment besoin de le développer, ce handisport. Il y a encore un gros travail à faire, hein.
Oui, alors on le voit que dernièrement, on essaie de dynamiser au maximum tout le territoire des Deux-Sèvres. Et bien sûr, derrière, c'est pour sensibiliser aussi bien les clubs qui sont déjà présents à l'accueil de nouveaux sportifs, mais aussi montrer qu'on est dynamique. Et si jamais il y a des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui se trouvent un peu isolées, qu'elles n'hésitent pas à nous solliciter pour que nous, derrière, on puisse les accompagner dans leur pratique sportive, en adaptant bien sûr à chacun et à chaque profil.
Ouais, l'adaptation, c'est le maître mot, hein. Quand on parle de handisport, il faut étudier chaque profil pour pouvoir à trouver des solutions.
Voilà, exactement. Là, on est vraiment sur du un pour un, et donc avec chaque personne qui nous sollicite, ou même chaque club qui vient nous démarcher dans leur volonté de s'ouvrir à la pratique handisport, on va vraiment essayer de s'adapter à la personne, à ses capacités, et puis aussi aux capacités du club à pouvoir l'accueillir. Et avec tout ça, on arrive plutôt pas mal à faire en sorte que nos sportifs, voilà, perdurent dans leur pratique, ou du moins qu'elles trouvent vraiment quelque chose pour pouvoir poursuivre.
Et puis on espère que les Jeux paralympiques donnent envie de s'y mettre pour les personnes handicapées, donnent aussi envie au club de s'ouvrir à ce public-là, hein. Ça doit jouer son rôle, ces Jeux paralympiques.
Bien sûr, bon, les Jeux paralympiques sont une énorme vitrine pour la pratique handisport. On a la chance en plus sur notre territoire d'avoir Julie Chupin qui va pouvoir y participer. Donc on a vraiment à cœur de dynamiser tout ça et de faire comprendre aussi via ces Jeux paralympiques que le sport est vraiment accessible à tous et que les valeurs sont les mêmes et que les émotions procurées par le sport sont aussi grandes, voire plus grandes encore chez les personnes en situation de handicap.
Alors si je reviens sur le raid Handivalide, qu'est-ce qu'on peut conseiller au public comme créneau horaire pour aller voir les sportifs le week-end prochain là? Qu'est-ce qui est le plus opportun?
Ce que je vous conseillerais, ce serait plutôt de venir vous promener sur le site de Pescalis qui reste ouvert au public le dimanche, puisque c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place les 12 ateliers. Donc au cours d'une petite balade autour des étangs, vous pourrez y voir tout ce qui est mis en place pour nos équipes, vous pourrez même les voir pratiquer. Donc ce sera vraiment l'occasion pour toutes les personnes, pour le public, de pouvoir pouvoir assister à ce bel événement. Et cette année, on est aussi en partenariat avec le Rotary Club de Bressuire et donc avec la Duck Race qui aura lieu le dimanche après-midi, donc dans la foulée du raid. Et on les remercie énormément de nous soutenir dans le beau projet du raid cette année, puisque les fonds récoltés par la Duck Race organisée par le Rotary seront reversés au comité handisport pour nous aider à développer la pratique justement sur le territoire. Donc l'idée c'est de poursuivre un petit peu le raid avec la Duck Race, et on en profitera pour faire notre remise des récompenses à ce moment-là.
Vous savez tout sur ce 9e raid Handivalide le week-end prochain à Pescalis. C'était Marion Baudouin, chargée de développement dans le nord du département pour le comité handisport. Voilà pour ce sport matin dimanche.